Alléluia. Voilà, maintenant, sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Avec ce titre, il y a une première diapo où Dieu est un Dieu qui cherche. Et il cherche, hein, on va voir pas mal de choses. Donc Dieu cherche, trois points, et on va le voir. D'emblée avec un verset d'introduction, c'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 4, Deutéronome. Ah, là, il y a un joli bruit hein, de feuilles, de pages qui tournent. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il ira te chercher. Amen. On s'aperçoit que, oui, Dieu cherche et il cherche encore aujourd'hui. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau de l'annonce, Dieu cherche les uns et les autres afin de pouvoir nous trouver. Parce que depuis que la chute en Éden, on s'aperçoit que Dieu est sans cesse à la recherche de l'homme et de la femme perdue. On sait que depuis la chute, donc, Dieu ne cesse de chercher l'homme perdu. D'ailleurs, vous rappelez, à un moment donné, hein, quand vers le soir, Dieu descend. Alors, on essaye d'imaginer la scène, hein, même en imaginant, on a un peu de mal. Dieu vient dans le jardin. Et dans ce jardin, il va poser une question. Où es-tu ? Et depuis, Dieu ne cesse de poser cette question à chaque être humain ici-bas sur Terre. Où es-tu ? Où te situes-tu ? C'est ça la question. Nous avons un privilège qui est immense. Nous sommes l'objet des recherches de Dieu envers chaque être humain. D'ailleurs, ça a été la mission du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez quand il va y avoir un petit homme, Zachée, qui va vouloir savoir qui était Jésus, curiosité, voilà, qui a été exacerbée. Et là, il se dit, mais je veux savoir qui est Jésus. Il avait un handicap, c'est sa petite taille, et donc la foule nombreuse, il ne pouvait pas voir qui était Jésus. Et puis, il va monter sur un sycomore, et là, donc, il va essayer de se cacher. Et puis Jésus va s'arrêter au bon endroit, au bon moment, le timing du Seigneur Jésus. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, savait ce qu'il y avait dans son cœur. Et à la fin de cette histoire, on sait que cet homme va donner sa vie au Seigneur. Il va y avoir des fruits de sa conversion et de sa repentance. Et à la fin de cette histoire, dans Luc 19, verset 10, il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu et chercher et venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Pour la plupart d'entre nous, nous avons fait cette expérience. Jésus, Dieu, nous a cherchés. Et on bénit le Seigneur parce qu'il nous a trouvés. Alléluia. Et ce matin, nous l'avons reconnu, nous l'avons chanté, nous l'avons célébré. Alléluia. Ici, au travers de ce verset, on s'aperçoit que c'est la mission, finalement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, donc, qui s'identifie, donc, à chacun d'entre nous, le Fils de l'homme, il est venu. Et moi, je bénis le Seigneur parce qu'il est venu. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu ici-bas, sur terre. Quand on y pense, c'est quand même extraordinaire. Hein, où Jésus, sans aucune hésitation, va quitter le ciel de gloire et va venir ici-bas, sur terre, pour nous montrer le chemin. Et notamment, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu es là, tu es ici. Pour la plupart, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a donné notre vie au Seigneur. Le Seigneur nous a trouver, et si tu repartais de ce lieu, juste, j'aimerais que tu puisses retenir une seule chose. Dieu te cherche. Dieu veut te sauver. Et Dieu veut te libérer de tout ce qui t'accable, de tout ce qui te retient. Ça, c'est la mission du Seigneur. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous. Souvent, on oppose au Seigneur, quand il nous lance cet appel, notre incapacité. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire, mais en fait, j'ai trop péché pour donner ma vie au Seigneur. Je suis trop pécheur. Alors déjà, de se reconnaître pécheur, c'est bien. Mais la Bible nous dit que le Seigneur est capable de venir chercher le plus grand des pécheurs, s'il y en avait un, le dernier des pécheurs, s'il y en avait un, le Seigneur est capable de venir et d'effacer la dette que nous avons envers Dieu. Dans un psaume, il est dit, hein, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui la dette est effacée. Et quand la dette est effacée, alors nous devenons libres, libres de notre nature. Nous avons été libérés. Et c'est pour ça ce matin qu'il y avait de la joie au milieu de nous. Il y avait de la joie parce que nous avons reconnu que le Seigneur nous a libérés, il nous a sauvés. Alléluia. Alors si toi tu es là ce matin et que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, c'est encore le temps de le faire. C'est un temps qui est tellement précieux. Un temps où tu dois t'examiner. Tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te penser à l'éternité. La Bible nous dit qu'il n'y a pas deux endroits où aller dans l'éternité. Un endroit de joie, de félicité, ce qu'on appelle le paradis, c'est là où le Seigneur nous veut. Et puis il y a un endroit où il va y avoir des grincements de dents, il va y avoir des regrets éternels. Dans Luc 16, la Bible nous dit également qu'il y a, donc elle nous enseigne qu'après la mort, qu'est-ce qui peut se passer? Elle nous donne quelques bribes là de ce qui peut se passer après la mort. On sait qu'après la mort, ça ne s'arrête pas. L'âme, elle est indestructible. Elle ne meurt jamais. Et donc, deux endroits où aller. La volonté de Dieu, exprimée à la croix du calvaire, c'est de nous sauver, nous tous. Et donc, pour cela, il nous cherche. Et ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard que tu sois là, toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur. C'est le temps de te tourner vers le Seigneur, de lui donner complètement ta vie. C'est le but de Dieu. Et quand on le cherche, alors il se laisse trouver. Amen. Et vous savez, quand il trouve le pécheur, quand il le trouve, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il le restaure. Il le soigne. Alléluia. Nous tous, nous étions, on avait des vies complètement brisées. Pour la plupart, je connais les témoignages, moi-même, brisées par la vie, parce que la vie, vous serez d'accord avec moi, elle brise. Elle brise. Et donc, le Seigneur, quand il nous trouve, il nous prend, d'abord il nous nettoie pour nous rendre un peu présentables. Il nous met sur un ferme rocher. Il nous restaure, petit à petit. Et des fois, il faut quand même un peu de temps. Moi, je dis qu'il y a des choses, quand on donne notre vie au Seigneur, qui disparaissent comme ça, sans qu'on puisse le demander. Puis il y a d'autres choses, avec des blessures secrètes au fond du cœur, qui ont besoin de temps, parce que Dieu est patient. Et Dieu veut nous guérir en profondeur. Il nous restaure. Il nous soigne. Et puis quand ça, c'est fait, il nous demande de le suivre. Pas dans un chemin qui est grand et spacieux. Dans un chemin qui est étroit et resserré. Si vous lisez ce passage dans Matthieu chapitre 7, vous allez vous apercevoir que ce chemin, il a une particularité. Il est dit, il y en a peu qui le trouvent. Alors nous avons un grand privilège. Nous avons trouvé ce chemin. Le Seigneur nous a montré le chemin. D'ailleurs, il va le dire lui-même. Je suis le chemin. Pas un chemin parmi tant d'autres. Aujourd'hui, beaucoup de religions. Le chemin, ça ne s'arrête pas là. La vérité, une seule vérité, et la vie, le Seigneur veut nous ramener à la vie. Et quand on suit le Seigneur, alors ça n'a rien à voir avec la facilité. Si un jour quelqu'un pense venir au Seigneur, et puis à un moment donné, donc tout ira bien, il y aura peut-être deux, trois personnes ou un peu plus qui va vous suivre jour après jour en vous jetant des pétales de rose sur votre chemin. C'est pas comme ça. On est confronté à la vie. On est confronté à la dureté de la vie. Mais il y a quand même une différence parce que Jésus est là avec nous, dans nos cœurs, et il nous accompagne dans ce chemin. Alléluia. Pourquoi il est étroit ce chemin? Vous êtes posé la question pourquoi il est étroit? Ce chemin, il est étroit afin que l'orgueil de l'homme ne puisse pas passer. Et qu'on ait besoin également de pouvoir se rabaisser, de pouvoir s'humilier. Alléluia. C'est un chemin où on compte sur la grâce de Dieu parce qu'on doit pouvoir voir le ravin à côté. Et un Seigneur, tiens-moi dans ta main. Alors on bénit le Seigneur pour ce chemin. Il est le chemin et nous voulons le suivre. Toi, mon frère, ma soeur qui est là ce matin, Tu t'es engagé dans ce chemin. Ne te décourage pas. Continue. Parce que la victoire est au bout. Alléluia. La destination, le Seigneur nous la donne. Il nous dit que ce que Dieu veut, on l'a vu tout à l'heure, c'est que nous soyons avec lui. Alléluia. Pour l'éternité, au ciel et tout. Passe par lui. Oui, quand il le trouve, il le restaure, il le soigne, il lui demande de le suivre. Et maintenant que nous sommes devenus ses enfants et que nous sommes devenus son peuple, ça c'est un privilège qui est immense. Ce matin, j'étais réjoui quand on voit certains élever la voix, des fois deux, trois, tous ensemble, on bénit le Seigneur parce que nous formons le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu, il est tellement nombreux, il n'y a qu'à lire dans la Bible, des myriades, des myriades. Donc, merci Seigneur. Et au milieu de son peuple, il cherche, une fois qu'il les a sauvés, une certaine catégorie de personnes. Dieu continue de chercher. Tout d'abord, Dieu, et ça c'est le premier point, il cherche des adorateurs. Chacun a son point de vue sur l'adoration. C'est sûr. Chacun a sa manière d'adorer. Mais Jésus va nous parler de la vraie adoration. Dans Jean, chapitre 4, verset 23, Jésus a une conversation avec une femme sur la margelle d'un puits. Au départ, la conversation, elle commence donc avec un débat sur la religion. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Un débat sur la religion, puis elle revendique son appartenance à une certaine religion. Puis le Seigneur, lui, dans la conversation, il va allumer quelque chose dans son cœur. Parce que le Seigneur la connaissait très bien. Elle essayait de cacher son passé. Et le Seigneur va exprimer, il va lui dire qu'elle connaissait son passé. Et là, à un moment donné, le Seigneur va dire, Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment ? En esprit et en vérité, là. Et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et dans une autre version, c'est là que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors le Seigneur recherche dans nos vies afin que nous puissions le louer de tout notre cœur. Alléluia. Et quand on parle de la louange, il y a des questions tellement fondamentales à laquelle nous pouvons nous poser certaines questions sur l'adoration. Tout d'abord, des questions toutes simples. Pourquoi adorer Dieu ? Point d'interrogation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous a donné un sauveur. Nous étions perdus. Et impossible pour chacun d'entre nous de pouvoir nous sauver. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un pense qu'avec des œuvres, il peut hériter du royaume de Dieu, la question qui va venir juste après, combien d'œuvres faut-il pour gagner le salut ? Et comme personne ne peut répondre à cette question, alors la Bible, elle est claire par rapport à ça. Personne ne peut se sauver lui-même. Alors, on adore le Seigneur parce qu'il nous a donné un sauveur. Ce matin, j'ai entendu beaucoup de louanges. Je te remercie, Seigneur, j'étais perdu. Je te remercie, Seigneur, tu m'as donné la vie. Il y a une espérance maintenant dans mon cœur. Et surtout, ne nous lassons pas que la louange soit orientée toujours vers le Seigneur. Ce matin, il y a eu quelques chants qui nous parlaient de la dignité. Dieu est digne d'être loué, amen, parce qu'il nous a donné un sauveur. Que nous soyons en forme ou pas, que nous ayons passé une bonne ou une mauvaise nuit, que nous traversions des moments difficiles ou pas, Dieu est toujours digne d'être loué. Alléluia. Amen. Alors des fois, on ne connecte pas rapidement. On a besoin d'un certain temps. Mais en tout cas, nous voulons adorer Dieu. Pourquoi adorer Dieu ? Parce qu'il nous a donné un sauveur. Et le remercier parce qu'il nous a donné un cadeau. En tant que parent, quand on éduque nos enfants, quand ils reçoivent quelque chose, un cadeau, on leur dit, il faut dire merci. Personne ne tolère que nos enfants ne disent pas merci. Et Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions simplement lui dire « Merci Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné la vie. » Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Je bénis Dieu parce qu'il nous donne cette opportunité. Oui, on adore le Seigneur parce qu'il nous a donné donc ce cadeau. Qui doit être adoré? Évidemment, Dieu en tant que Père. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire et bouleversant pour chacun d'entre nous. Jésus est venu révéler le cœur du Père véritable, du Père peut-être qu'on aurait aimé avoir. Parce que dans la faiblesse, on s'aperçoit qu'il y a du mal qui est fait avec le Père. Des fois, on voit certaines histoires, des abus, de l'inceste, c'est terrible. Et puis on grandit, les personnes qui ont été abusées comme ça, elles grandissent avec une aversion et finalement une haine. Et quand on parle du Père, ça vient les bousculer et on comprend. Jésus vient, lui, en disant, mais finalement, quand on s'approche de Dieu, vous rappelez du modèle de la prière, hein, Matthieu 6, dites notre Père. Et quand on s'approche de Dieu comme mon Père, ça change la relation. La relation n'est plus la même. C'est une relation d'amour. Une relation avec notre Seigneur, alléluia, c'est tellement merveilleux. Alors Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous comme un Père. Évidemment, on adore le Seigneur Jésus, je l'ai dit. La question suivante, qui peut adorer? Qui? Tous ceux et celles qui ont été rachetés. Le prix a été un prix fort. Le Seigneur a donné sa vie à la croix du calvaire pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, qui peut l'adorer? Ceux qui ont été rachetés. Alors du coup, où l'adorer? N'importe où. On peut adorer le Seigneur n'importe où. Alors les moments privilégiés, c'est les moments où on rentre dans notre chambre, on ferme la porte, à toute distraction. Alors moi, je rajoute, ça c'est la parole qui le dit, et moi je rajoute, on éteint le portable. Vous avez remarqué, chaque fois qu'on dit, je vais prendre un temps pour le Seigneur, et là, comme par hasard, un appel. Éteindre le portable, et puis s'approcher du Seigneur. Mais en fait, le lieu n'a pas trop d'importance. Ça, c'est pour la louange personnelle. Évidemment que pour la louange collective, et on remercie le Seigneur, on en parlait hier avec les jeunes, on bénit Dieu pour les locaux qu'il nous donne. Où il y a la capacité de pouvoir se réunir, et une bonne température. On est là dans la communion fraternelle et on bénit le Seigneur. Pour combien de temps encore, on ne sait pas. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais la Bible, je lis la Bible, moi c'est tout. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir des temps difficiles, des temps compliqués. Et pour, afin de pouvoir, si on veut résister, mais c'est là, c'est dans la communion fraternelle aussi que le Seigneur envoie sa bénédiction et il veut que l'on puisse grandir. Finalement, l'endroit n'a pas d'importance. Hier, encore une fois, je prenais l'exemple avec les jeunes. L'Église, c'est nous tous. Nous formons l'Église, elle est pierre vivante. On allait dehors, dans un jardin pas loin, un jardin public pas loin, un parc. Et si on décidait de louer le Seigneur, on est quand même l'Église. Donc l'endroit finalement, n'a pas trop d'importance. On peut l'adorer quand on veut. Prochaine question, quand devons-nous l'adorer? À n'importe quel moment de la journée. Dieu s'est rendu accessible. On a ce privilège de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu quand nous le désirons. Alors, il y a un passage dans la Bible, qui, encore une fois, qui dit, mais que personne ne se prive, en fait. Ne vous privez pas de venir à la présence de Dieu. Souvent, oui, mais je ne suis pas assez digne. On ne le sera jamais assez par nous-mêmes. On ne sera jamais assez digne de pouvoir venir à la présence de Dieu. Mais, recouvert, en ayant accepté Jésus-Christ dans notre vie, alors le sacrifice de Jésus nous ouvre les portes de la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a déjà goûté ici à la présence de Dieu? Eh oui, hein. C'est bon, la présence de Dieu. Alors, on ne veut pas se priver à chaque fois qu'on a l'opportunité, et jour après jour. Hein. Et des fois même, je ne sais pas, alors, on est au travail, ou je ne sais pas, on est dans la voiture. Voilà, une pensée. Par contre, juste la parenthèse, vous êtes dans la voiture, quand, si vous priez, vous louez le Seigneur, ne fermez pas les yeux. Mais tout ça pour dire qu'on peut louer le Seigneur quand on veut. Quel privilège merveilleux! Et de quelle manière, donc question suivante, de quelle manière on peut adorer le Seigneur? Jean 4, 24, donc la suite de Jean 4, 23, vous avez vu, c'est extraordinaire. On apprend des choses ce matin. Après 23, il y a 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, alléluia, adorer un esprit, l'adoration a maintenant un caractère spirituel. C'est ce que veut dire ce passage. Pas par notre intelligence naturelle. C'est-à-dire, notre esprit qui a été régénéré est en connexion avec l'esprit de Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Et adorer en vérité, la louange qui sort du cœur. Parce qu'en fait, on ne peut pas tromper Dieu, on peut tromper les hommes. Hein. Je vous l'avais dit hein, ici, hein, j'avais été trompé hein, à un moment donné. Hein. Je me souviens, hein, lors d'un culte, quelqu'un se tenir debout, en train de lever les mains, et la veille, elle avait fait quelque chose de terrible. Terrible. Donc, j'avais été trompé. Et ça m'avait servi le son, hein, dans un sens, de dire, ben voilà, pas se fier trop à ce qu'on voit. Mais le Seigneur, lui, sait toute chose. Adorer en vérité. Alléluia. Et puis, il y a des sujets d'adoration. Il y a de quoi adorer le Seigneur. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que nous avons été tous créés pour adorer. On a été créés pour adorer. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé avec cette âme afin de pouvoir adorer leur Dieu. Et ça n'a pas changé depuis. Nous avons été créés pour adorer. Et il y a pas mal de sujets qui sont là. Tout d'abord, on peut louer le Seigneur, l'adorer pour sa création, ses créatures, alléluia. Est-ce que ce matin, quand vous êtes levé, vous êtes regardé dans la glace, vous êtes dit, quelle créature merveilleuse. Seigneur, je te loue pour la créature merveilleuse que tu as créée. Est-ce que vous savez que le psaume 139 nous le dit? Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Ça va nous aider, hein, parce que nos chevilles enflent. C'est pas ça, hein, mais de réaliser le privilège que nous avons. Eh oui, nous sommes des créatures merveilleuses. Alors, peut-être qu'un jour, certains vont cesser de se dévaloriser. Parce qu'on aurait toujours tendance à avoir des choses qui ne vont pas. Souvent ou régulièrement, hein, quand on discute avec certains, vous savez, en tant que bon français, on a des habitudes comme ça qui viennent. Hein. On dit bonjour, et puis ensuite, la question qui vient derrière, comment ça va? Alors des fois, certains, on n'ose pas trop dire comment ça va, parce que sinon, après, ça risque d'être un peu long. Mais, en fait, quand on dit ça va, ça sous-entend, j'ai Jésus dans mon cœur, alors, tout va bien. Même s'il y a des choses à régler, des choses de la vie. Hein. Et on est tous soumis à ces problèmes-là. Alors on veut louer le Seigneur pour ses créations. On veut louer le Seigneur pour la rédemption. On veut louer le Seigneur pour son abaissement pour chacun d'entre nous. Cet abaissement, il a été volontaire jusqu'à la mort de la croix. On sait que la croix, c'était une malédiction. Hein. Malheur à celui qui est pendu au bois. On veut louer le Seigneur pour sa résurrection. Alléluia. Il est ressuscité, notre Seigneur. Il est au milieu de nous par son esprit. Et ce matin, nous l'avons adoré. On veut louer le Seigneur pour sa prochaine apparition. Vous savez que le Seigneur revient? Alors que Dieu fasse, qu'on puisse le voir. Mais si le Seigneur a prévu autrement, ben on loue le Seigneur quand même. Hein, de tout notre cœur. Alors oui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent. Est-ce qu'il va me trouver? C'est la question. Hein. Alors on répond chacun pour nous et dire, Seigneur, oui, je suis là. Je veux que ma vie soit simplement, que je sois quelqu'un simplement qui t'adore en tout temps, en toutes circonstances. Ça va nous permettre de ne pas douter du Seigneur, d'avoir cette foi, cette confiance avec notre Dieu. Alors, que nous puissions répondre, oui Seigneur, tu cherches des adorateurs, je suis là. Adorer, vous le savez, hein, ce n'est pas gesticuler aujourd'hui, hein, c'est un peu, voilà. Hein. Mais adorer de tout notre cœur et en vérité, amen. C'est nous qu'il cherche en ce moment et donc du coup, quelle est la réponse que nous allons lui donner ? La question que l'on peut se poser, suis-je un adorateur ? Chacun répond pour lui. Il y a une autre catégorie de personnes que Dieu recherche. Dieu cherche ou recherche des intercesseurs. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux, parmi le peuple, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays. La suite du verset est dramatique. Hein. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors Dieu cherche des intercesseurs hein, pour monter un mur. Un mur, ça peut s'apparenter à un mur de protection. Afin qu'il y ait certaines, ne soit pas attaqué, qu'il y ait des choses qui ne puissent pas intervenir. La définition de l'intercession, hein, ou celui qui intercède, c'est, alors la définition biblique, c'est intervenir, c'est s'interposer, c'est prier, c'est agir en médiateur. Voilà l'intercesseur. En fait, il y a une image pour ça. Celui qui intercède, il a une main en direction du ciel et une main ici-bas sur terre par rapport aux besoins. En fait, il fait le lien. L'intercesseur, c'est celui qui s'interpose. Et le Seigneur cherche, on l'a lu ensemble, Ézéchiel, hein, déjà à l'époque, il cherchait des intercesseurs. Et que chacun d'entre nous, nous puissions répondre à donc cette demande de la part du Seigneur. Vous vous rappelez, Abraham, il a intercédé pour Sodome. Dieu va donner sa sanction. Et voilà, je vais détruire. Parce que Dieu, n'oublions jamais, hein, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Impossible. Et donc, Abraham va intercéder. Abraham, l'intercesseur, il va se tenir donc devant le Seigneur et dit, Seigneur, s'il y a 50 personnes, sauve. Et là, on voit la grâce de Dieu. Si je trouve 50 personnes, je ne détruis pas. Puis, il y en a, les 50 personnes, ils n'y sont pas. Hein. 40, 30, 20. Et vous remarquerez qu'à un moment donné, Abraham, il dit, Seigneur, excuse-moi, hein, je vais encore te demander, mais 10, puis ils n'y sont pas. Alors il a intercédé. En tout cas, nous, ce que nous voulons garder ce matin, c'est que Dieu cherche des intercesseurs, ceux qui ne regardent pas trop leur nombril, mais qui se préoccupent des besoins de l'autre, du besoin du nécessiteux. Et le Seigneur nous fait cette promesse. Et le Seigneur nous dit que quand on se préoccupe finalement de ses affaires, il s'occupe des nôtres. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous le dis, hein, alors c'est pas pour mettre en avant quoi que ce soit. Je vous promets, depuis que je suis au Seigneur, on peut les compter sur les doigts d'une main à chaque fois que j'ai prié pour moi. Parce que j'ai compris ce principe-là. Évidemment, hein, des fois, il faut s'exprimer devant le Seigneur. Hein, Seigneur, voilà ma situation, j'ai besoin que tu interviennes. Et moi, j'ai compris que quand on prie pour les besoins des autres, le Seigneur s'occupe des nôtres. Et ça, c'est une réalité. Hein, et c'est quelque chose à expérimenter. Essayons d'éviter de venir avec, vous savez, la fameuse liste. Seigneur, tu vois ? Seigneur, tu vois ? Seigneur, tu vois ? Et le Seigneur dit, oui, je vois. Parce que le Seigneur voit tout. Hein. Mais plutôt, Seigneur, vois au milieu de nous combien les ténèbres s'épaississent, combien le péché grandit. Quand on voit aujourd'hui hein, notre pays de France, quelle direction a pris notre pays, on ne peut que s'agenouiller et crier au Seigneur, « Seigneur, sauve ! Sauve, Seigneur !» Et quand on intercède, alors c'est là où le Seigneur, il agit. Amen. Donc Abraham, il a intercédé, Moïse a intercédé aussi hein, pour Israël. Il a fallu le gérer quand même, parce que des fois on lit la parole de Dieu, il a fallu le gérer ça. C'est pour montrer le cœur de Moïse. Dieu il dit, bon, voilà, alors évidemment, hein, je le traduis à mon langage, j'en peux plus de ce peuple. Je veux l'exterminer, mais par contre, toi, je veux te bénir. Ça aurait été excellent hein, si le Seigneur nous disait ça à nous. Le peuple, je veux le rejeter. Mais toi, je veux te bénir. Quelle est la réaction de Moïse ? Il dit, Seigneur, non. Non. Qu'il en va de la réputation de Dieu. C'est assez mystérieux quand même comme dialogue hein, entre Moïse et Dieu. Et puis il va intercéder, Seigneur, non. Parce que les gens aux alentours vont dire que tu les as abandonnés. Il nous a dit que c'est vraiment ce que dit le passage, que Dieu se repentit donc de ce qu'il voulait faire, intercéder. Vous rappelez que également, quand on intercède, on peut ne pas voir le fruit, comme ça a été le cas d'Étienne. Étienne, il a prié lui pour Saul de Tarse. Et Saul de Tarse s'est converti quelques temps après. Il a intercédé, Seigneur, pardonne-leur. Quelle prière, hein, alors qu'on est en train de recevoir des pierres. Et à chaque pierre qui est lancée, un morceau de chair est arraché. C'est ça, hein. La réaction, Seigneur, pardonne-leur. Si cet homme-là n'était pas rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas qui peut l'être. Alors, Étienne a prié, et vous savez, Jésus également intercède. Il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour chacun d'entre nous. Et l'intercession du Seigneur Jésus, c'est, Seigneur, je te prie qu'un tel, qu'une telle qui est là, qu'il puisse tenir jusqu'au bout. C'est ça, intercéder. Jésus intercède pour toi. Alléluia, quel privilège immense. Pourquoi intercéder? Parce que l'intercession favorise l'action du Saint-Esprit. Elle retient et contrarie celle du diable. L'intercession, c'est donc un combat spirituel. L'intercesseur a la vision de la perdition éternelle pour ceux qui ne croient pas. L'intercesseur a de la compassion. Et là, ça me fait penser un peu à ce passage de Matthieu 9, 36. C'est l'exemple du Seigneur Jésus. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ici, on voit que voilà, Jésus, quand il voyait la foule, il ne la voyait pas voilà, comme une foule ordinaire. Il avait compassion, il était ému de compassion. Quand on est ému de compassion, ça nous pousse, et les entrailles sont touchées et ça nous pousse à agir. C'est ça. Hein. Alors que nous puissions demander, Seigneur, donne-moi ta compassion. Pour tous ceux et celles qui ont besoin. L'importance de l'intercession, nous le voyons dans Ésaïe 59, verset 16. Il voit, donc Dieu, qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dramatique, hein? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne, pour étonner Dieu, il faut le faire. Hein. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors à la question, Dieu cherche des intercesseurs. Que nous puissions répondre, Seigneur, je veux m'engager dans l'intercession. Je veux m'engager dans le jeûne et dans la prière. Pas simplement quand j'ai un besoin. Je vais jeûner par rapport au besoin. C'est comme si on mettait une pression au Seigneur. Hein. Seigneur, j'ai jeûné, maintenant il faut que tu agisses. Mais intercéder pour les besoins. Que nous puissions répondre chacun d'entre nous et dire, Seigneur, oui, je veux être la personne que tu recherches. Au travers du verset d'Ézéchiel, il y a une demande qui est faite de la part du Seigneur. Il cherche des intercesseurs et que nous puissions dire, Seigneur, je suis là, en toute humilité. Mais le Seigneur se plaît, hein, alléluia, d'utiliser les choses faibles pour confondre. Hein, ça a été lu hier. Donc Dieu cherche des adorateurs, il cherche des intercesseurs. Puis Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. La définition de la fidélité, donc, c'est les termes que l'on retrouve, constance. Respect de la parole donnée. Quand on est fidèle, on respecte la parole qui a été donnée, même si ça coûte. À l'époque, on n'avait pas besoin de signer des documents, hein. La parole suffisait. Qu'on puisse revenir à ça. On donne notre parole et on essaie de la tenir. La fidélité, c'est la qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts ou ses attachements. La fidélité est en conformité à la vérité, il est dans l'exactitude. Déjà, le psalmiste, il s'est interrogé. Psaume 12, verset 2. Il s'interrogeait parce qu'il dit « Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Aujourd'hui, si vous parlez de fidélité, et à tous les niveaux, hein, fidélité dans le couple, mais pas que. Fidélité à l'église, hier on le disait, hein, encore une fois avec les jeunes, parce que voilà, on partageait sur l'ecclésiologie. La doctrine de l'Église. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on change d'Église comme on change de crèmerie. On n'est pas content, on sanctionne par sa non-présence, on n'est pas là. Alors évidemment, hein, toutes aux proportions gardées, il y a des fois, hein, évidemment, dès qu'il y a de l'humain là-dedans, hein, c'est là où ça se complique. Mais déjà, en son temps, le psalmiste, il se posait la question, les fidèles disparaissent. Mais que nous puissions inverser l'échelle de valeur et que nous puissions dire, ben, dans l'église de Sainte-Agne, les fidèles fleurissent. C'est bientôt le printemps. Eh oui, la fidélité. Le fidèle, c'est celui qui est stable. Stable dans ses émotions. Il n'est pas changeant, il n'est pas flottant, il n'est pas inconstant. Mais il demeure ferme dans la foi en Jésus-Christ. C'est celui-là, hein, le fidèle. La fidélité, on le sait, c'est un des attributs de Dieu. On l'a chanté, hein, tout à l'heure, Dieu est fidèle. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes même fidèles, il, avec un i majuscule, hein, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il est fort ce verset. Hein. Dieu ne peut pas se renier, hein, de ce qu'il est. Il est fidèle. Quand on parle de fidélité, le Seigneur nous appelle à être fidèles. Alors de suite, on va penser à de grandes choses. Regardez ce que nous dit Luc 16, verset 10. La fidélité dans les petites choses, qui pourraient paraître même insignifiantes. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Fidélité dans les petites choses. Fidélité dans ma relation avec le Seigneur. Fidélité envers l'Église. Être là quand il y a la convocation qui est lancée par le Seigneur. Dire, Seigneur, je veux être là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être fidèles dans les petites choses. Peut-être les choses que personne ne voit, mais que Dieu voit et qu'il nous récompensera en temps et en heure. Amen. Il y aura toujours plus de personnes désireuses de faire de grandes choses pour Dieu. Mais les choses invisibles qu'on ne voit pas, ça sera un peu plus difficile. Et puis je vais terminer avec Dieu qui recherche, Dieu qui cherche. Dieu cherche des serviteurs. Matthieu 25, verset 21. Vous vous rappelez de cette petite histoire qui a été racontée par le Seigneur? C'est la parabole des talents. Et puis il va y avoir la conclusion. Hein. Le Seigneur va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Regardez, il dit, c'est bien, bon et fidèle. Quoi ? Serviteur. Et la Bible nous exhorte à être serviteurs les uns des autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors ça aussi, hein, ça c'est la devise préférée des boxeurs. Alors c'était pour attirer l'attention, hein, pour qu'on soit concentré. On va bientôt terminer. Donc nous soyons des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs et chaque chrétien est appelé avant tout à rendre des services dans l'œuvre de Dieu. Je donne quelques exemples. Un malade à visiter, un témoignage à rendre, une parole de réconfort, un temps de prière pour des besoins dans l'œuvre de Dieu. Un don d'argent pour son œuvre. Eh oui, il faut le dire aujourd'hui. Alors le trésorier sera d'accord avec ça, évidemment. Mais parce qu'en fait, c'est un principe de la parole de Dieu. Un service matériel à rendre à l'Église. Alors il y a des pièges qui peuvent être là. Hein. Quand on sert le Seigneur, évidemment, il faut le faire de tout notre cœur, parce que le Seigneur regarde au cœur. Les pièges qui guettent le serviteur de Dieu, ils sont nombreux. Il y a le piège de la reconnaissance, c'est-à-dire je sers pour qu'on puisse voir que je serve. Et là, c'est terrible. L'apôtre Paul va faire cette déclaration dans Galates 1, verset 10. Il dit, mais si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On le fait pour plaire à Dieu. Alléluia. On le fait pour le Seigneur. Ça, c'est le piège de la reconnaissance. Il y a le piège de l'autoservice, c'est-à-dire se servir soi-même en prétextant le faire pour Dieu. On ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu. Dieu désire être la raison de notre service. Il y a le piège du service où on tombe dans l'activisme. On ne peut pas rester tranquille, il faut qu'on fasse certaines choses. On oublie que la communion avec Dieu est prioritaire. Il y a également le piège du service minimum. Ce piège peut nous amener à ne servir que lorsque ça ne coûte pas. Lorsqu'il n'y a rien à sacrifier. Et aujourd'hui, on le constate. L'homme de Dieu, David, va faire cette déclaration de 2 Samuel 24, 24, c'est le dernier verset. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je ne peux pas, c'est comme, on entend son cri. Et des fois, ça va coûter quelque chose. Mais s'il n'y a pas cet esprit de sacrifice, si je posais la question, est-ce qu'on veut recevoir le feu du ciel, l'approbation de Dieu, on est tous d'accord? Alors, il faut qu'on se mette consciemment sur l'autel du sacrifice. Parce qu'il faut de la viande à brûler avant que le Seigneur envoie le feu. Et chacun d'entre nous, nous voulons répondre à cette question, Seigneur. Tu cherches des serviteurs, je veux être là. Je veux répondre à cet appel. Alors, voilà, laissons-nous trouver, alors qu'on a compris que Dieu cherche certaines catégories, il y avait bien d'autres choses. Laissons-nous trouver par Dieu dans la louange et l'intercession, dans la fidélité, et en étant des serviteurs les uns des autres. Alléluia. Et c'est à ce prix-là qu'on verra la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Oui, tu es un Dieu qui cherche, qui recherche. Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous, d'abord, tu cherches le perdu. Seigneur, et puis tu cherches des adorateurs, des intercesseurs. Seigneur, tu cherches des hommes, des femmes fidèles, des serviteurs, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons répondre, Seigneur mon Dieu, nous sommes là, Seigneur, avec humilité, Seigneur, dans notre faiblesse. Mais Seigneur, avec la force que tu vas nous donner, Seigneur mon Dieu, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, je te remercie parce que ce matin encore, tu pars dans nos cœurs, tu nous fais du bien et tu veux te glorifier dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Que ce message porte un fruit dans les cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions, Seigneur, mettre, Seigneur mon Dieu, des choses en place dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, répondre favorablement à l'appel que tu nous lances. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Alléluia.